Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans son costume taillé sur mesure, agrémenté d'une paire de gants, d'un chapeau et d'une canne à pommeau doré, ce millionnaire italien émigré aux États-Unis incarne à lui seul le rêve américain. Il a un tel bagot qu'il vous ferait croire n'importe quoi, et d'ailleurs il l'a fait. En 1920, Charles Ponzi a berné des dizaines de milliers d'Américains et s'en est mis plein les poches grâce à un ingénieux système financier. Tout repose sur un équilibre qui consiste simplement à rembourser les clients avec l'argent des nouveaux investisseurs. C'est la pyramide de Ponzi et c'est extrêmement risqué, la preuve, lui-même en a fait les frais. Carlo Ponzi est né en 1882 dans une famille bourgeoise de Lugo en Émilie-Romagne. Il aurait étudié 4 ans à la grande université de Rome, la Sapienza. Aurait, car avec cet énergumène, il faut toujours se méfier. Ponzi a un sens de l'affabulation aiguisée. Un journaliste du Boston Globe, il raconte « Je vais être franc avec vous, j'étais ce qu'on appelle un fils prodigue. Dépenser de l'argent me paraissait la chose la plus intéressante à faire sur Terre. » Pour ça, il faudrait déjà qu'il en ait de l'argent. Comme bon nombre d'Européens à cette époque, Ponzi rejoint le Nouveau Monde. En 1903, à 21 ans, il serait arrivé aux États-Unis avec moins de 3 dollars en poche, mais avec, je le cite, « un million de dollars d'espoir dans le cœur ». Pour se fondre dans la masse, Carlos se fait appeler Charles. Pendant 4 ans, il arpente les États-Unis de ville en ville en changeant régulièrement d'uniforme. Il est tour à tour plongeur, serveur, garçon d'hôtel, vendeur ou encore traducteur. En 1907, direction le Canada. À Montréal, il fait la rencontre d'un immigré italien du nom de Luigi Zarossi. Lui a fait fortune dans le commerce de cigares et a monté sa propre banque pour aider ses compatriotes à poursuivre leur rêve américain. Sa banque est très attractive car elle propose à ses clients qui viennent y déposer leur argent un taux d'intérêt de 6% au lieu des 2% souvent en vigueur ailleurs. Devant Zarossi, Charles Ponzi s'invente une fausse identité, une famille riche des compétences en finance. Avec son bagout et ses mensonges, il séduit son interlocuteur qui l'embauche d'abord comme caissier. Ponzi est doué et s'est bluffé. Il gravit rapidement les échelons et peut ainsi observer de près le fonctionnement du système Zarossi. Si le taux d'intérêt proposé par son patron est aussi avantageux, c'est tout simple. Quand ses clients viennent retirer leur argent et leurs intérêts, Zarossi leur donne l'argent placé par les clients récents. Heureusement que tout le monde ne retire pas en même temps, sinon ce serait la faillite assurée. Alors, lorsque certains commencent à se méfier, Zarossi abandonne femme et enfant, empoche l'argent et file à l'anglaise, mais il laisse son idée dans la tête de son fidèle employé. Pour avoir volé un chéquier, puis avoir tenté de faire entrer illégalement 5 ouvriers italiens sans papier sur le territoire américain, Charles Ponzi fait un passage par la case prison. Installé à Boston en 1917, il est bien décidé à faire du flouze. Il se lance dans une pratique légale qui détourne le système à son profit, l'arbitrage. Il achète et vend des coupons-réponses internationaux. Vous savez, ces timbres-poste universels mis en place pour que les familles puissent communiquer avec leurs proches partis tenter leur chance en Amérique. Où est le profit, direz-vous ? Eh bien, Ponzi profite du fait que ces coupons n'aient pas la même valeur partout. Il se passionne pour les taux de change et récupère la différence. Ça marche plutôt pas mal. Ses premiers 1000 dollars sont multipliés par 15, alors il décide de créer son entreprise, la Old Colony Foreign Exchange Company. Pour se constituer un capital de départ, il frappe à la porte d'investisseurs et leur fait 2 offres alléchantes. Soit multiplier leur mise de départ par 1,5 en 45 jours, soit la doubler en 90 jours. C'est du délire. Si on fait le calcul, multiplier un nombre par 2 chaque mois revient à le multiplier par 1 milliard en 2 ans et demi. Pour donner aux clients leurs intérêts, Ponzi s'inspire de Zarossi et compte taper dans les sous apportés par les clients les plus récents. C'est un système pyramidal, car chaque étape nécessite de trouver 2 fois plus de personnes, d'où le nom de pyramide de Ponzi. L'appât du gain ramène plus d'un investisseur curieux. Début juillet 1920, 30 000 personnes ont déjà confié à Charles Ponzi plus de 10 millions de dollars. Mais le rêve se dissipe brutalement. Joseph Daniels, un revendeur de matériel d'occasion chez qui Ponzi s'était procuré de vieux meubles, décide de le poursuivre en justice au motif qu'il lui avait promis 50% des profits de sa société. C'est faux. Mais la justice du Massachusetts est contrainte de demander à Ponzi de mettre son activité en pause, le temps de mener l'enquête. En pause ? Son système n'est déjà pas viable et ressemble chaque jour à une course contre la montre, alors Fichtre doit accepter et utiliser ses fonds pour rembourser ceux qui ont pris peur suite à la médiatisation de l'affaire. Ponzi parvient à garder la face quelque temps. C'est ensuite l'analyste financier Clarence Barron qui fait remarquer dans le Boston Post que 27 000 coupons postaux circulent aux États-Unis alors qu'il en aurait fallu 160 millions pour justifier le marché de Ponzi. Celui-ci calme le jeu, rembourse, mais la pyramide vacille avant de s'écrouler. Au total, 15 millions de dollars lui auraient été confiés par environ 40 000 personnes et au final, seuls 5 millions furent redistribués. Ponzi est condamné à 5 ans de prison, mais sort au bout de 3 pour bonne conduite. Une bonne conduite qui n'empêche pas les tentatives de remonter des escroqueries à droite et à gauche, avant de partir en Amérique du Sud. Suite à plusieurs échecs, c'est ruiné et aveugle que Charles Ponzi meurt à Rio de Janeiro en 1949. Son système lui survit et l'un de ses héritiers parvient même à le faire durer 20 ans. Quand la police est venue arrêter Bernard Madoff en novembre 2008, celui-ci a immédiatement avoué avoir monté une chaîne de Ponzi. L'élève a dépassé le maître en détournant un montant estimé à 45 milliards d'euros. Si sa pyramide fut plus haute, sa chute, elle, fit tout autant de mal.